Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 14e épisode d'Eratom, le balado politique à écouter sans faute. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 25 avril, et oui, déjà, et cette semaine, nous allons revenir sur les sujets dont nous avons traité antérieurement. Ça va, Irénée?
Oui, bonsoir aux auditrices et auditeurs, ça va bien, ça va super bien.
Cool, bon, alors on commence en premier lieu. Tu voulais revenir sur la saga du tramway.
Oui, finalement, le Conseil des ministres a donné sa bénédiction au tramway de la bombe. Donc, le décret est sorti, je pense, il y a 2 semaines.
Alléluia.
Oui, alors, cette bonne nouvelle, surtout pour le maire de Québec, Régis Labeaume, n'a pas été annoncé en grande pompe.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Probablement que le premier ministre du Québec, M. Legault, ne voulait pas partager la lumière avec le maire de Québec. Car je crois vraiment que c'est une grande victoire pour M. Labeaume. La CAQ, ses électeurs sont plus... ce sont des banlieusards, donc ils viennent des banlieues, et soutiennent beaucoup le projet du troisième lien. Donc on peut dire que la communication bagarreuse de M. Labeaume a été payante.
Excellent, oui. Parfait.
Et je voulais rajouter aussi que la semaine dernière, nous avons appris que le gouvernement du Québec allait investir 840 millions de la capitale nationale. Donc, c'était un projet de 100 km de voies réservées sur les principales autoroutes.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Oui, mais le projet, donc, ce sont c'est les fuites dans les médias et le projet n'a pas encore été annoncé publiquement. Et peut-être que la CAQ l'annoncera l'année prochaine, lors de la prochaine campagne électorale.
J'ai l'impression que ça va faire exploser les budgets, non?
Probablement, mais en tout cas, c'est beaucoup d'argent investi dans les transports de la grande capitale, dans notre capitale nationale plutôt. Donc, il y a, le projet du tramway est estimé coûtera 3 milliards de dollars aux contribuables. Le tunnel Québec-Lévis est estimé à 4 milliards de dollars et le nouveau projet, c'est presque 1 milliard de dollars.
Ok, on est quasiment à 8 dollars, plus de 8 milliards de dollars.
Oui, et là, on ne parle pas de dépassement de coûts. Donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Chaque fois, je réalise que nous vivons dans un pays riche, dans une province riche, en tout cas.
C'est clair. Mais du coup, c'est Montréal qui va être la parente pauvre du Québec?
Ah non, non, non,
Non.
Montréal, oh, non, 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 non. Montréal a beaucoup de projets, dont le RM, je pense, je ne me souviens pas de tout, et qui est financé, entre autres, par la Caisse de dépôt et placement. Et non, 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 Montréal n'est pas...
N'est pas à la traîne.
Non, 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 pas du tout.
Ok, excellent. A-t-on une idée d'une date de commencement pour un des projets?
Mais je pense que pour le tramway de Québec, les appels vont commencer depuis la signature du décret. Et je pense que les travaux ont déjà été entamés sur le boulevard Charest, entre okay. autres. Mais pour le tunnel Québec-Lévis, le gouvernement n'a pas encore annoncé le début des travaux et je pense que ils attendent la fin de la pandémie pour faire une annonce spectaculaire.
Ok, ouais. Ok. Donc à suivre.
À suivre.
Allons-y maintenant vers la politique purement provinciale. Dans un des épisodes, on avait abordé le sujet de la réforme du mode de scrutin. Qu'est-ce qu'il en est là présentement?
En tout cas, le projet de réformer le mode de scrutin est enterré et les fleurs ont été envoyées à la tombe.
D'accord.
Donc, je reviens là-dessus, c'est que le gouvernement Legault avait déposé un projet de loi pour réformer le mode de scrutin. Ce projet de loi a été déposé en 2019. Et avec ce projet de loi, la CAQ, le gouvernement de la CAQ, pardon, voulait organiser un référendum pour demander aux Québécoises, aux Québécois, s'ils étaient d'accord avec le projet, avec la réforme du mode de scrutin. Mais le projet traîne, 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 et ça fait l'affaire du gouvernement Legault. Le directeur général des élections du Québec a averti le gouvernement que si le projet de loi n'était pas adopté en février dernier, qu'il serait impossible pour son organisme d'organiser ce référendum
Pour les prochaines élections.
durant les prochaines élections. Alors, Monsieur Legault a cédé à la pression de plusieurs de ses députés qui auraient perdu leur siège avec la réforme du mode de scrutin. Et je trouve ça déplorable et je trouve aussi que Monsieur Legault a manqué de courage politique. Alors, c'est quoi son excuse? Son excuse, c'est que, j'ouvre les guillemets, toutes nos énergies doivent être mises sur la pandémie. À mon avis, cette réforme est prioritaire pour la démocratie québécoise et à la défense de Legault, ce n'est pas le premier, il n'est pas le seul premier ministre qui n'a pas respecté cet engagement-là.
Pourquoi ça te fâche, Irénée?
Parce que il est essentiel, et nous le savons, et depuis 40 ans au Québec, tout gouvernement veut réformer le mode de scrutin, mais il n'y arrive pas. Et presque tous les gouvernements promettent de réformer le mode de scrutin, mais ne le font pas. Dernièrement, c'était même Justin Trudeau n'a pas respecté cette promesse. En ce qui concerne M. Legault au Québec, donc lui, son excuse, donc comme je viens de le dire, c'est la pandémie. Et la pandémie, je trouve qu'elle a le dos large. Ah oui, vraiment, non? Et j'aime citer les gens. Et là, je cite l'ancien président des États-Unis, Lyndon Johnson, en critiquant les mauvaises décisions ou l'impossibilité de Monsieur Ford qui l'a remplacé. Donc aux États-Unis, il avait dit, on peut marcher et mâcher la gomme en même temps. Rien n'empêche à Monsieur Legault de réformer le mode de scrutin, mais il ne se met pas à la hauteur d'un homme d'État. Avec cette réforme, il aurait pu laisser
Sa trace.
sa trace dans l'histoire du Québec. Et donc, lui, la laïcité, oui, mais ça ne va pas rentrer dans l'histoire comme s'il avait pris la décision, respecté son engagement pour faire cette réforme majeure, essentielle pour notre démocratie. C'est ça. Donc, ça me désole.
Ceci étant dit, allons maintenant vers le fédéral. Malheureusement, le sinistre feuilleton des inconduites sexuelles dans l'armée continue.
Malheureusement, oui. Et c'est dommage parce qu'une fois de plus, la pandémie prend beaucoup de place. Et en tout cas, c'est triste. Il y a quelques jours, une certaine major qui s'appelle Brennan, une victime présumée de l'ancien chef d'état-major, le général Jonathan Vance, a témoigné devant un comité de la Chambre des communes. Alors, selon elle, parce que là, il n'y a rien qui a été prouvé, là, les actes reprochés au général Vance, ce sont des actes présumés. C'est important de le dire, il ne faut pas se faire poursuivre.
C'est le principe. Oui, et puis c'est le principe de base de la justice canadienne.
Exactement. Alors, selon elle, le général Vince se croyait intouchable. Il y aurait eu une enquête probablement de la police militaire et le général aurait demandé à cette major de mentir.
Ah oui.
Oui, parce qu'il avait peur de tomber. Mais généralement, quand tu es général, en plus chef d'état-major, tu es extrêmement puissant. Donc, il est évident, je pense qu'il est évident, qu'il se croyait
Au-dessus de
intouchable.
tout.
Écoutez ça. Donc, la même major a indiqué, a témoigné que le fameux général saurait père de deux de ses huit enfants.
Wow.
Oui.
Wow.
C'est un feuilleton.
C'est clair.
On va être prudent, là. En tout cas, je ne veux pas exprimer mon opinion, mais s'il est père de deux enfants du major, on peut se poser des questions.
C'est oui.
On va s'arrêter là.
C'est mieux.
Oui. Et le général en question n'aurait jamais payé une pension alimentaire à la dite major pour s'occuper de ses enfants. Donc, il n'aurait pas assumé ses responsabilités.
C'est fou quand même parce que sous toute réserve, hein, on s'entend bien, mais ça jette quand même un éclairage totalement différent sur l'affaire.
Oui. Et c'est ça qui est dangereux peut-être, parce que souvent dans les cas d'agression sexuelle, les gens, l'opinion publique, le tribunal d'opinion publique condamne les gens avant d'avoir eu les faits. Et c'est dangereux. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce qui va arriver, parce que Monsieur Trudeau, le Premier ministre du Canada, a salué le courage de la major. Il la trouve courageuse. Et Monsieur Vince ne parle pas aux médias. Et il y a plusieurs enquêtes qui se poursuivent. C'est un feuilleton. S'il n'était pas macabre, ça serait un peu croustillant.
Oui,
Mais
ça l'est un peu quand même. Macabre, c'est peut-être le terme est un peu fort, peut-être, mais en effet, il y a pas mal de croustilles là-dedans.
oui. Alors pour revenir là-dessus aussi, c'est que nous avons également appris que la chef de cabinet de M. Trudeau, Cathy Telfer, qui est une femme extrêmement puissante, quand tu es chef de cabinet du Premier ministre du Canada, t'es peut-être la
La
personne
vraie boss.
la plus puissante au Canada après le Premier ministre. Parce que toutes les décisions, toutes les personnes qui doivent voir le Premier ministre doivent passer devant toi. Alors, revenons au scandale d'inconduite sexuelle de l'armée. Il y a un ancien conseiller principal de Justin Trudeau qui a déclaré devant un autre comité de la Chambre des communes que la chef de cabinet savait depuis le mois de mars 2018 que le général Vince faisait l'objet d'allégations de conduite sexuelle. Le même ancien conseiller principal de M. Trudeau a aussi dit qu'il n'en avait jamais informé le Premier ministre. Ce qui est difficile avec ce scandale-là, c'est que on ne peut pas, les partis d'opposition ne peuvent pas condamner M. Trudeau, principalement le Parti conservateur qui est l'opposition officielle, parce que le général Vince a été
Nommé.
nommé par l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais notre premier ministre du Canada, Monsieur Trudeau, qui est féministe, il se dit féministe et je crois qu'il devrait déclencher une enquête publique afin de faire la lumière sur ce dossier-là. Parce que il faut que ça cesse.
Ça, c'est certain.
C'est le temps que ça cesse. Et j'ai trouvé une autre expression aussi pour bien illustrer mon propos. On dit souvent qu'il faut que les bottines suivent les babines.
C'est mon expression préférée, celle-là.
Oui, on parle de bottines, l'armée. Bref, ça doit cesser, ça prend une enquête. Basta.
Ton basta irénée illustre bien ta colère.
Oui, je suis en colère.
C'est vrai, je partage ta colère. Mais bon, pour finir sur une note un petit peu plus positive, bonne nouvelle, le salaire minimum au fédéral sera désormais de 15 dollars de l'heure.
Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, le gouvernement Trudeau, dans son budget 2021, présenté par Madame Freeland, la vice-première ministre et ministre des Finances, et son budget, elle l'a présenté comme un budget féministe. Donc, pour revenir sur l'idéologie féministe du gouvernement de Monsieur Trudeau. Donc, le salaire minimum fédéral sera dorénavant à 15 dollars de l'heure. Mais comme nous sommes dans une fédération, ce salaire s'adressera uniquement au secteur privé sous réglementation fédérale et aussi les entreprises fédérales ou les organismes fédéraux. Et donc, cette augmentation touchera approximativement 26 000 travailleurs. À titre d'exemple, donc les travailleurs du transport aérien, les banques, en tout cas, j'espère que les banques, avec le profit qu'ils font,
c'est clair.
Ne peuvent pas moins que 15 dollars leurs employés. Et les sociétés d'État, la fonction publique fédérale et le Parlement, entre autres. Donc, je pense que c'est une mesure importante pour lutter contre la pauvreté. Et je le souligne, je le répète, ce n'est pas normal qu'un pays comme le Canada, membre du G7, le G7 qui regroupe les pays les plus riches au monde, ce n'est pas normal que nos concitoyennes, nos concitoyens vivent dans la pauvreté.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose?
Oui, je pense que dans les prochains balados, prochains épisodes, pardon, on pourrait peut-être parler de la politique africaine et de la politique de ton pays,
la France,
car la semaine passée, il y a une nouvelle qui est passée inaperçue dans les médias québécois et canadiens, c'est la mort de Idriss Déby, qui était président du Tchad, un allié incontournable de la France, dans l'ouest de l'Afrique. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on parle un peu plus de la politique internationale. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Tout à fait d'accord.
Ouais, ça va
et
être...
qu'en pensent nos auditeurs et auditrices?
Oui, vous pouvez commenter, nous suggérer les sujets. Je pense qu'on va de temps en temps parler de la politique internationale. Mais j'ai des gens qui nous écoutent qui m'ont demandé de parler un peu plus de la politique africaine.
Très bien, ainsi soit-il.
Amen. Logo n'aimera pas ça et son gouvernement. Il n'aime pas tout ce qui est. En tout cas, j'arrête
Bon, et bien sur ce,
là.
bonne soirée.
Et bonne semaine politique. À la semaine prochaine.
Au revoir.